Bonsoir et bienvenue au Centre Pompidou. Et merci de votre présence pour cette nouvelle rencontre du cycle Écrire, écrire, pourquoi, organisée par la Bibliothèque publique d'information, qui vous convie chaque mois à la découverte d'un auteur français ou étranger. Ce soir, ce sont deux écrivains égyptiens qui sont à l'honneur, et leur présence parmi nous, c'est aux Belles étrangères que nous la devons. Les Belles étrangères ont pour mission de faire connaître et reconnaître les grandes littératures du monde au public français. Elles sont organisées chaque année par le Centre national du livre, dont le président Benoît Hivert nous honore ce soir de sa présence. Les Belles étrangères fêtent cette année leurs 20 ans, et pour cette édition anniversaire, 10 écrivains confirmés venant de 10 pays différents ont été conviés à venir accompagnés par un écrivain de leur pays qu'ils estiment mais qui n'est pas encore traduit en français. 20 auteurs étrangers vont ainsi sillonner la France pendant 2 semaines jusqu'au 22 novembre à la découverte du public, à la rencontre plutôt du public. C'est à cette occasion que la Bibliothèque publique d'information et le Centre Pompidou ont le plaisir et l'honneur d'accueillir un grand écrivain égyptien, Ramal Guitani, qui nous présentera dans la deuxième partie de la soirée son compatriote, l'écrivain Ahmed Abouknegar. Tous deux, tour à tour, nous éclaireront sur leur univers, leur cheminement personnel et intellectuel, les ressorts de leur écriture. Des textes de chacun seront lus par le comédien Nicolas Taïeb. Et pour cette soirée, nous avons la chance d'avoir Josiane Savigno, que tous ceux qui aiment la littérature et les écrivains connaissent comme une journaliste et une critique littéraire de référence au journal Le Monde, qui est aussi l'auteur de biographies et d'un tout dernier livre autobiographique, celui-ci, Point de côté, paru aux éditions Stock. Avant de lui donner la parole pour vous présenter nos invités, j'ajoute que c'est Khaled Osman qui sera leur interprète. Khaled Osman, qui est aussi le traducteur des derniers livres de Gamal Guitani aux éditions du Seuil, tels que « Le livre des illuminations »,« Au plus près de l'éternité » et « Les poussières de l'effacement ». Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.
Merci beaucoup. Alors bonsoir, et oh là là, c'est très très dur ces projecteurs, on va y arriver quand même. En revanche, il y a quelque chose à quoi on ne va pas arriver, il faut que je vous prévienne tout de suite, c'est que... On a ici Gamal Guitani, et on a la chance de l'avoir ici ce soir, mais il y a beaucoup de Guitani dans toute son œuvre. Et on n'aura sûrement pas le temps de les aborder tous, d'autant que nous n'avons pas une langue en commun, et que, évidemment, la traduction prend un petit peu de temps. Alors, il y a un Guitani qui médite sur le temps, ce temps qui balaye tout sur son passage, comme il dit, et ça traverse toute son œuvre, donc on sera bien obligé de s'y arrêter tout à l'heure. Il y a aussi un Guitani, je dirais, architecte, constructeur, par exemple, dans Pyramide, qui a été publié chez Sinbad Actes Sud en 2000. Il y a un Guitani conteur, en particulier dans son premier livre, Zeni Barakat, qui a été publié au Seuil en 85, qui est un roman de l'histoire du Caire vu par un voyageur vénitien du XVIe siècle, ou dans La mystérieuse affaire de l'impasse Zafrani, qui a été publié aussi chez Sinbad Actes Sud en 97, et que je vous recommande parce que là, on voit que Guitani manie aussi l'humour et qu'il a un très grand sens du burlesque. C'est un livre très, très drôle. Et puis, il y a un Guitani planétaire, mystique, politique, dans un chef-d'œuvre qui est apparu il n'y a pas tellement longtemps, au Seuil en 2005, qui s'appelle Le Livre des Illuminations, et ça, il faudra bien s'y arrêter un peu aussi. Et puis, il y a un Guitani journaliste qui a créé et qui dirige toujours un grand journal littéraire en Égypte et qui a été emprisonné pour ses idées. Et puis, il y a un Guitani plus intime dont j'aimerais qu'on parle un peu, parce que c'est un texte que j'aime beaucoup, un petit texte plus autobiographique qui s'appelle « Au plus près de l'éternité ». Alors, pour faire un peu rapide sur la biographie, parce qu'il faut essayer d'être un peu rapide, donc Gamal Guitani, vous êtes né le 9 mai 1945, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans un village de Haute-Égypte. Mais très vite, votre famille s'est installée au Caire, à Gamaliyeh. Je ne sais pas vraiment comment il faut prononcer ça. C'est comment on prononce ça, Gamaliyeh ? Gamaliyeh, qui est un lieu qui est souvent celui de vos romans. Et votre père voulait que ses enfants fassent des études. Mais en fait, vous avez interrompu les vôtres et vous êtes devenu dessinateur de tapis. Alors je voudrais qu'en quelques mots, vous puissiez dire pourquoi ce choix. Et au fond, est-ce que cette formation de dessinateur a eu une influence sur la manière dont vous écrivez, sur la manière dont vous composez vos romans ?
Merci.
Même ça, je comprends.
Pour cette question. Et bonsoir à tous.
À vrai dire, je suis né une heure après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le 9 mai
1945. Je suis né dans le sud de l'Égypte, en Haute-Égypte, mais la première image que j'ai dans la conscience, c'est une image du Caire, du vieux Caire.
والدي كان عامل فقير.
Mon père était un travailleur modeste.
بسبب ظروف
un employé modeste.
أسرية لم يحصل على فرصة التعليم التي كان يتمناها.
Et du fait de la précarité de sa condition, il n'a pas pu acquérir le savoir dont il aurait rêvé.
ولذلك قرر أن يتعلم أبنائه حتى الشهادة الكبيرة. الشهادة الكبيرة عندنا في مصر بتعني الدكتوراه.
C'est pour ça qu'il avait pour ambition pour ses enfants de leur faire faire les études les plus longues possibles, ce qu'on appelle en Égypte le grand diplôme, et le grand diplôme c'est le doctorat.
دائما كان يقول لي أنا ما عنديش ثروة لكن الثروة اللي حدها لكم العلم عشان ما تشوفوش اللي أنا شفته.
Il me disait souvent, moi je n'ai pas de fortune personnelle, mais ce que je vais vous léguer, c'est la connaissance. Comme ça, vous n'aurez pas à subir ce que moi j'ai subi. Cependant, quand j'ai atteint l'âge de 15 ans, j'ai vu que nos longues études risquaient d'épuiser nos parents, et j'ai donc décidé de les écourter et de m'orienter vers une formation plus courte, une formation pratique. À vrai dire, ce n'est pas moi qui ai choisi le tapis, c'est le tapis qui m'a choisi.
لأنه كان توزيع على الأقسام المدرسة الفنية بالمجموع.
En fait, il y avait une sorte de sélection qui faisait que on était affecté à telle ou telle formation en fonction de sa note.
وده الحسن حظي.
Mais il s'est avéré par a posteriori que ça a été une chance pour moi.
الوالد قاوم فكرة إن أنا أروح التعليم الفني ولم يقتنع إلا بعد ما خلاني أقسمت إني هكمل في التعليم حتى نهاية الشوط.
Mon père n'était pas satisfait de cette formation courte et il n'a accepté en fait qu'après m'avoir fait jurer que je poursuivrais mes études jusqu'au bout.
طلعت الأول كمتخصص في السجاد. فعشان أنا طلعت الأول خدت فرصة أدخل كلية الفنون التطبيقية العليا.
Donc j'ai dans cette formation de dessinateur de tapis j'ai eu la meilleure note où j'ai été classé premier et ça m'a permis d'entrer justement dans une faculté d'art appliqué.
درست سنتين صباغة الألوان.
Pendant deux ans, j'ai étudié la teinture, les colorations des tapis. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai été incarcéré, ce qui fait que je n'ai pas pu poursuivre. Qui s'est aussi avéré une chance a posteriori.
Mais alors, justement, cette incarcération, est-ce qu'il est vrai que vous avez été libéré parce que Jean-Paul Sartre... Parce que Jean-Paul Sartre était invité en Égypte et qu'il aurait dit qu'il ne viendrait pas si un certain nombre de jeunes écrivains, dont vous, qui étaient emprisonnés, n'étaient pas libérés. Ou est-ce une légende ?
C'est une vérité historique absolument juste et établie.
L'Oustaz Mohamed Hassanin Hekel d'a'a les ziyaret Masr fi mars 1967.
Donc Hassan Enhekel, qui était un peu le conseiller politique et culturel de Nasser, a invité Sartre pour une visite. En mars
1967.
Et il a appris à cette occasion qu'effectivement un groupe d'intellectuels était incarcéré sans jugement ni accusation précise.
طبعا انا كنت في المعتقل لاسباب سياسيه مش جنائيه.
Guitani tient à préciser qu'il était incarcéré pour des raisons politiques et non comme un criminel de droit commun. Pour ceux qui auraient des doutes dans la
salle. Il a dit que
Donc il a effectivement posé comme condition que ces intellectuels soient libérés au moment de sa venue ou un peu avant sa venue. Et par le fait est qu'il y avait parmi eux pratiquement toute la génération des écrivains des années
60.
C'est une visite qui a été très médiatisée, disons, et qui a été très importante pour les relations culturelles franco-égyptiennes. Mais hélas, je n'ai pas eu l'occasion de remercier personnellement Jean-Paul Sartre pour son intervention.
Mais justement, puisque vous parlez de cette situation politique qui vous a conduit en prison, je voudrais qu'on dise quelques mots de votre livre « Épître des destinées » qui est apparu au Seuil en 1993. Parce qu'au fond, dans ce livre, chaque personnage voit un rêve s'évanouir, un monde chanceler. On a le sentiment que ces années 1960-1970 étaient pour vos héros, donc peut-être pour vous, des années maudites. Je suppose que c'était à cause de la situation politique. Était-ce lié à la guerre de 1967, notamment ?
يعني رغم ان انا سجنت في عهد عبد الناصر لكن بعتبر ان فترة السبعينات اللي ما كانش فيها سجن كانت اصعب بكتير جدا من الستينات.
Même si j'ai été incarcéré dans les années 60 sous le régime de Nasser, donc j'estime que la période suivante des années 70, où je n'ai pas été incarcéré, a été beaucoup plus éprouvante que la période
précédente.
Parce que cette période a vu en fait un certain nombre d'évolutions politiques et économiques qui n'était plus du tout en faveur de la masse du peuple.
أن أكون في المعتقل أو في وضع صعب هذه مسألة بتخص ذاتية بتعنيني لكن أن أرى يعني ملايين البشر بتتغير مصائرهم بسبب سياسات قاسية وخاطئة فده بيعذبني أكتر مما أكون أنا واقع تحت تعذيب أو حصار للحرية.
Être incarcéré était bien sûr une épreuve, mais c'était une épreuve personnelle qui ne touchait finalement que moi, tandis que de voir des millions de gens, des démunis, voir leur destin bousculé, ébranlé par des politiques erratiques ou fautives, c'était beaucoup plus dur que d'être torturé ou supplicié dans ma chair.
يعني أنا معني بمصائر البشر ويمكن ده يكون لي علاقة باهتمامي بالزمن يعني لو شفت بداية أي إنسان كان زميلي مثلا في المرحلة الابتدائية وما انتهى إليه الآن هتشوف حاجات عجيبة.
Le problème des destinées est quelque chose qui me fascine et qu'on peut relier d'ailleurs à mon intérêt pour la question du temps. Donc j'ai toujours été fasciné par le destin d'un individu, de voir ce qu'il était quand il était enfant et de voir où il a abouti des décennies plus tard. On aboutit à des surprises souvent incroyables et c'est quelque chose qui m'attire, qui m'interpelle. Et ça, c'était vraiment le sujet de l'épître des destinées.
لكن الأخطر من التحولات الاقتصادية تغيرات القيم.
Ce qui est plus grave encore que le bouleversement économique, c'est le bouleversement des valeurs, de mon point de vue.
على سبيل المثال أنا تكلمت عن أبويا. كانت القيمة الأساسية عنده العلم. الآن القيمة هي المال.
Donc j'ai cité à propos de mon père la haute valeur qu'il portait à la connaissance, au savoir, et on constate aujourd'hui que la valeur dominante, c'est l'argent.
أنت معك كم وبالتالي تساوي كم وليس مهما كيف أتى هذا الكم.
Donc on estime l'individu par ce qu'il possède. Combien possèdes-tu, alors tu vaux tant, et non pas que sais-tu ou quel est ton savoir.
Mais comme vous parlez de Nasser et de ce qui a suivi, il y a une question que je voulais vous poser tout à l'heure quand on parlera du livre des Illuminations, mais aussi bien la poser maintenant. C'est qu'en effet, j'ai été frappé dans le livre des Illuminations par le fait que vous faites de Nasser une figure paternelle, malgré le fait que bon, il vous a, c'est sous son régime que vous avez été conduit en prison. En revanche, vous êtes extrêmement dur à l'égard de Sadat. Vous avez un ton de pamphlétaire à l'égard de Sadat. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Vous pensez qu'il a été extrêmement néfaste pour le pays ?
بالنسبة لأن عبد الناصر سجني القضية مش قضية شخصية. أنا بنحاز إلى أي حاكم بالقدر اللي بيحقق به العدالة الاجتماعية ويدي فرص إنسانية لأوسع قاعدة عريضة من الناس.
Comme j'ai dit, le fait d'avoir été incarcéré, c'était pour moi, c'était un événement qui ne touchait que moi. Et ce n'est pas le critère que j'utilise pour évaluer tel ou tel dirigeant. Pour moi, c'est les idéaux de justice sociale, ce qu'il parvient à instaurer d'équité et de justice sociale dans la société, qui selon cela que je juge un dirigeant politique.
الخلاف بالنسبة لي مع عبد الناصر كان خلاف على التفاصيل وليس على الكليات، بمعنى أنه هو كان بيقول أنا باب اشتراكية، لكن أنا والاتجاه اللي أنا كنت بنتمي إليه كان يرى أن دي مش الاشتراكية بما يكفي.
Et le différent que j'avais avec Nasser en fait était sur des points de détail plus que sur une divergence profonde. C'est, par exemple, Nasser disait qu'il voulait instaurer le socialisme et moi je disais il faut aller plus loin que ça. Ça c'est pas assez, il faut faire beaucoup plus.
طبعاً لما السادات جه ابتدى عصر عبد الناصر اللي ما كانش عاجبنا يبدو كحلم بعيد.
Avec l'avènement de Sadat, cette ère de Nasser qui avait ses défauts et qui nous déplaisait sur beaucoup de points, a pris rétrospectivement, je dirais, une valeur supérieure. On a commencé à la voir comme un rêve.
Le مقياس عندي هو الانحياز للأغلبية، لأن إحنا شعب معظمه فقراء، عايز قدر كبير جدا من العدالة الاجتماعية.
La population égyptienne compte beaucoup de pauvres et on ne peut pas négliger un pan aussi large de la population. Donc c'est pour ça que c'est ce critère-là qui prévaut chez moi.
Mais justement, cette expérience de la prison que vous évoquez brièvement dans Les poussières de l'effacement, dans un très beau texte qui s'appelle Les yeux bandés, on a le sentiment à travers ce que vous dites que c'était seulement une péripétie pour vous, pas quelque chose de vraiment destructeur.
حاسين انها كانت تجربه بناءه مش مدمره.
هو المشهد ده بالذات مشهد كان مؤلم بالنسبه لي، لانه انا يعني قضيت في الحبس الانفرادي حوالي 40 يوم، ورايي انه سماع الصوت المعذب او المعذب اقسى بكتير جدا من وقوع التعذيب على الانسان.
Cette scène de l'homme aux yeux bandés que vous évoquez et en fait la période où j'ai été incarcéré en cachot individuel a été très 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 dure pour moi, et particulièrement le fait d'entendre les tortures qui étaient infligées aux autres prisonniers. Et d'après moi, c'est beaucoup plus dur d'entendre sans voir ce qu'on inflige à un prisonnier que de subir soi-même la torture.
يعني انا اتعصبت، يعني نفس المشهد ده وقع عليا انا، لكن المؤلم ليا هو ان انا اشوف واحد متعصب ورايح للتعذيب.
Donc j'ai souffert beaucoup plus de voir cet homme aux yeux bandés que de subir moi-même l'expérience, puisque ça m'est arrivé aussi d'avoir les yeux bandés.
ساعات ما بيبدا الضرب بالعصا او بالكهرباء او باي وسيله ايه حيحصل اكتر من كده
à partir du moment où on subit la torture donc où les coups de gourdin ou les décharges électriques commencent à s'abattre on sait que ça pourra pas aller beaucoup plus loin on est déjà au plus bas je dirais donc ça peut pas être bien pire
وانا تعلمت من ابناء الجنوب في مصر ان لا حدود لقدره الانسان على التحمل
j'ai appris de mes des gens qui habitent ma région dans le sud en Haute-Égypte qu'il n'y a pas de limite à la résistance humaine
خاصه اذا كان مقتنع بفكره
particulièrement quand on est convaincu d'une certaine pensée ou qu'on a une idée résolue
كانت فتره صعبه
Bien sûr, c'était difficile, je ne vous cache pas.
Et
c'est sans conteste une erreur de la part du régime de Nasser.
Mais c'est bien que vous précisiez ça, parce que quand vous en parlez, vous dites, bon, finalement, ouais, c'était pas si grave. Nasser, au fond, nous avions des divergences de détails, mais c'est des divergences de détails qui sont quand même assez douloureuses.
زيني بركات عمل ضد القهر البوليسي اتكتب سنة 69
Il y a quand même eu le livre Zaini Barakat qui a été écrit en 69 et où il y a une description très précise de la torture, des instruments de torture et qui était une allusion transparente au régime de Nasser et à ses excès en matière de torture.
صحيح أنا كتبت عن القرن 16 واستخدمت لغة كانت لغة القرن 16 لكن الرواية اتفهمت.
C'est vrai que le roman était situé au 16e siècle et j'ai d'ailleurs utilisé un langage de cette époque mais je crois que le message était suffisamment clair pour être compris.
لكن يعني إذا حتى البوليس ما فهمهاش قوي في مثقفين بيقوموا بالواجب
et quand bien même les policiers n'auraient pas absolument compris le message les intellectuels se sont chargés de le leur transmettre
mais précisément entre Zaini Barakat et le livre des illuminations il y a une sorte de restauration de Nasser comme vous l'avez dit à la lumière de ce qui a suivi تخليت عن الجوانب
السلبية وتذكرت أكثر اللي بقى من عبد الناصر حتى الآن انحيازه للأغلبية الفقيرة دي قيمة يمكن أصدقائنا في الغرب ما بيدركوهاش لكن أنا كابن أسرة فقيرة ما كانش ممكن أتعلم وأبقى موجود هنا الآن إلا بفضل جمال عبد الناصر.
La valeur qui a survécu jusqu'à maintenant du régime nassérien, c'est vraiment son parti pris en faveur des déshérités. Et je voudrais insister sur le fait que si on n'avait pas connu cette période, je n'aurais jamais pu accéder à l'enseignement et je ne serais sans doute pas là pour parler avec vous aujourd'hui.
يعني هي السبب في تحول الموقف وبعدين ده أنا كنت يعني متطرف في الاشتراكية أنا كنت بتبع الخط الماوي في الاشتراكية ما كانش عاجبني الاتحاد السوفيتي مش عبد الناصر كنت رأي إن الاتحاد السوفيتي في اشتراكية مش حقيقية
C'est ce qui explique en fait ce que vous interprétez comme une mutation dans mon jugement. Mais en fait, c'est cette valeur-là qui est restée et qui continue à être aujourd'hui importante. D'autant que j'étais, il faut savoir que j'étais pratiquement un extrémiste en matière de pensée socialiste ou communiste. J'ai même été maoïste et donc je trouvais que Nasser n'en faisait pas assez. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Même l'Union soviétique me paraissait une vision un petit peu, disons...
Oh, mais la Chine vous donne raison, la Chine vous donne raison.
Était trop light.
Aujourd'hui, vous avez raison.
بالمناسبة شوفي هقول لحضرتك إحنا جيل جيلي أنا وهو جيل بيعرف الأدب العربي باسم جيل الستينات مر بتجارب عنيفة جدا.
À ce propos, je voudrais vous dire que la génération des années 60 à laquelle j'appartiens est passée par des épreuves terribles.
وكان ممكن كل تجربة يعني تقضي على جيل كامل.
Et elle aurait pu être complètement décapitée, cette génération. Mais je pense qu'avec les autres écrivains les plus importants de cette génération, nous sommes tous restés fidèles à un certain nombre de valeurs, donc la lutte pour la liberté, la défense des plus déshérités, et c'est quelque chose qui reste jusqu'à maintenant.
Mais alors justement, pas cette génération, mais il y a un autre écrivain dont je suppose qu'à chaque fois que vous... que vous parlez en public, notamment hors d'Égypte, on vous parle, ça doit finir par être pénible, mais je vais vous en parler quand même un peu, c'est Naguib Mahfouz. Donc, vous l'avez rencontré quand vous étiez très jeune, vous avez publié des entretiens avec lui chez Sinbad d'Actes Sud en 91, vous l'admirez, vous avez un même amour du Caire, mais est-ce que vous diriez vraiment que c'est une sorte de père spirituel? Parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas à proprement parler son disciple. Je n'ai pas l'impression qu'il ait totalement influencé votre création, sauf peut-être dans les premiers romans. J'ai le sentiment que vous avez plus une vision assez différente de la réalité de la sienne et un rapport différent au patrimoine de la littérature arabe.
Naguib Mahfouz, à la mustawa shakhsi, ab rohi liya fa'lan.
Naguib Mahfouz est vraiment un père spirituel sur le plan personnel, avant tout.
Koun en ihna mukhtalifin.
Le fait que nous ayons des styles différents ou une manière d'écrire différente n'est que dans l'ordre naturel des choses. Au contraire, sa vraie paternité, si je puis dire, a consisté à me rendre différent. Mon projet d'écriture, mon projet littéraire, est aux antipodes de celui de Naguib Mahfouz, comme vous le
dites.
Mais je n'aurais jamais pu me lancer dans l'écriture sans l'impulsion que m'a donné Naguib Mahfouz. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus en quoi nos projets sont différents, Naguib Mahfouz a fondé le roman arabe en prenant pour point de départ le roman classique européen du
19e
siècle. Alors que mon projet à moi, c'était plutôt de restituer la narration à ses origines arabes, dans le patrimoine arabe.
Naguib Mahfouz كان صديق شخصي جدا سري معاه وسره معايا.
Naguib Mahfouz était un ami intime au point que nous partagions les secrets les plus enfouis.
كنا بنختلف سياسيا.
Il nous arrivait d'être en désaccord politique, par exemple. Mais c'était une divergence marquée par le respect. Parce que je savais par ailleurs que Naguib Mahfouz n'exprimait jamais une opinion dont il ne fut pas entièrement convaincu. Donc c'était jamais avec des vues intéressées ou opportunistes.
Oui, donc en fait, c'est ça. C'est une sorte de père spirituel, quelqu'un qui vous a permis d'accéder à votre liberté. Mais vous n'êtes pas un disciple au sens où on l'entend de manière conventionnelle.
هو هو منحني أشياء كثيرة جدا منحني الحرية في الاختلاف.
Il m'a quand même beaucoup donné, donc comme j'ai dit, cette faculté d'être différent de lui. Ça je lui dois.
الحقيقة أنا علاقتي بنجيب محفوظ علاقة نادرة جدا.
À vrai dire, c'est une relation assez unique.
ويمكن أنا ما بتكلمش عنها كتير. لأن الأدعياء كتروا بعد نوبل يعني اللي بيدعوا إنهم أصدقاء وكتروا.
Il y a des choses que je répugne un peu à dire souvent parce que après le prix Nobel, Naguib Mahfouz a tout d'un coup eu beaucoup d'amis.
لكن donc صحيح يعني نجيب محفوظ في السنوات الأخيرة كان أصبح زي المعالم مصر.
Donc il est devenu un peu comme un, je dirais, un repère fixe de l'Égypte, comme un monument.
كل واحد نفسه ياخد صورة.
Chacun voulait être photographié à côté de lui comme on se fait photographier à côté des pyramides.
Même ça j'avais compris.
لكن نجيب محفوظ كإنسان أنا مش حبيته بس ككاتب. نجيب محفوظ كإنسان من أجمل البشر اللي أنا شفتهم في حياتي.
Donc ce n'est pas uniquement comme écrivain que je l'ai apprécié, c'est vraiment comme être humain. C'est un des êtres les plus purs que j'ai rencontré.
كان في تشابه نفسي كمان في حاجات كتيرة.
Nous avions aussi beaucoup de points communs sur le plan psychologique.
منها مثلا احنا أبناء منطقة واحدة.
Par exemple, nous sommes tous les deux issus de la même, du même quartier du Caire.
القاهرة القديمة.
و... Caire.
وكان في نوع من التشابه النفسي. مثلا انت عارف هو كان موظف فكان مضطر يخضع نفسه لنظام صارم يجلس. انا نفس الشيء.
Et parmi les autres points communs, c'était nos méthodes de travail ou notre contexte de travail, puisque Naguib Mahfouz était un fonctionnaire, donc obligé d'organiser son temps d'une manière très stricte. Et il m'est arrivé en fait exactement la même chose avec le journalisme, puisqu'il m'a fallu aussi diviser mon temps pour consacrer du temps à l'écriture.
بالمناسبة نجيب محفوظ كان ناقد شديد جدا لنظام عبد الناصر ونظام السادات.
Et j'en profite pour dire que Mahfouz était critique à la fois du régime nassérien et du régime de Sadat.
هو أيد السادات سياسيا.
On peut penser qu'il a appuyé Sadat sur le plan politique, dans sa politique extérieure notamment, mais pas... Donc en fait, dans l'amour au pied des pyramides, il a décrit la période des années 70, la période de Sadat, comme une sorte de règne qui aurait appelé le règne des voleurs. Une révolution de voleurs, en fait. Comme si les voleurs avaient pris le pouvoir.
Donc on va évidemment pas pouvoir parler de tous vos livres, malheureusement, mais j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit moment sur Appel du couchant, pas seulement parce que c'est un livre que j'aime bien, mais parce que c'est un magnifique récit allégorique. Donc il a été publié en France au Seuil en 2000. C'est l'histoire d'un homme qui doit se rendre là où le soleil se couche, c'est-à-dire dans un lieu inatteignable. Et c'est une pérégrination qui dure 45 ans, à moins que ce soit 75 ans, on n'est pas très très sûr. Et je voudrais que vous en disiez quelque chose, parce que c'est un grand livre sur le temps, et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la méditation sur le temps est au cœur de toute votre œuvre.
منها فكرة الزمن وما نجبر عليه من تقدم لا يمكننا التأثير فيه لا بالإبطاء ولا بالإسراع ولا بالاستعادة ففي قوة خفية بتدفعنا باستمرار في اتجاه نقطة محددة كل إنسان بيتجه ليها.
À vrai dire, au nombre de mes préoccupations, donc de ce qui hante ma réflexion, il y a effectivement cette notion du temps en tant que force occulte qui nous pousse vers une destination déterminée, mais qu'on ne peut pas du tout influencer ni en la ralentissant, ni en l'accélérant, ni en revenant en arrière comme nous l'aurions voulu. Et c'est ça qui me travaille dans beaucoup de mes livres, et notamment dans ce livre-là.
من خلال الموروث المصري القديم ومن خلال معتقدات شعبية خاصة مثل فكرة الهاتف أن يسمع الإنسان صوتا غير محدد المصدر يأمره أمرا.
Donc j'ai utilisé ça avec des légendes ou des notions qui sont tirées de l'histoire pharaonique, du patrimoine égyptien ancien. Comme cette idée de l'appel, donc il y a comme s'il y avait un héleur, une voix qui vous appelle de nulle part pour vous enjoindre de faire quelque chose ou de vous rendre quelque part.
في هاتف المغيب سمع جمال بن عبد الله هاتفا يأمره أن يتبع مسار الشمس.
Donc dans l'appel du couchant, justement, le héros du livre entend cet appel qui l'oblige à se rendre à l'origine du soleil, enfin au point de départ du soleil.
فيخرج من الجمالية من القاهرة القديمة ويبدأ رحلة يمر فيها بأطوار.
Il sort du vieux Caire et entame un périple qui va être traversé d'épreuves de différentes stations.
وهو يتقدم في هذه الرحلة يتقدم أيضا في السن وفي العمر وفي التجربة.
Et bien sûr, cette progression géographique se double d'une progression temporelle puisque son âge augmente à mesure qu'il avance.
إلى أن يصل إلى ساحل المحيط الأعظم.
Jusqu'au moment où il arrive au bord de l'océan, du grand océan.
فيبدأ يملي الرحلة. على شخص آخر أحمد بن عبد الله.
Et il commence à, enfin, il décide de confier la suite du voyage à un autre personnage, Ahmed ibn Abd Allah.
بالمناسبة أنا اسمي جمال أحمد الغيطاني.
Donc j'en profite pour dire, je m'appelle Gamal Ahmed al-Ghitani.
فكل منهما أحمد بن عبد الله مشلول لم يغادر بلاد المغرب التي وصل إليها. جمال أخيرا بعد الرحلة وهو منهك وعجوز فيبدأ يملي الرحلة على أحمد بن عبد الله المشلول أو المقعد فيكتشف كل منهما الآخر.
Donc Gamal, le premier héros du livre, confie la mission à Ahmed ibn Abdallah, qui lui est paralysé. Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais sorti des pays du couchant du Maghreb où il se trouve. Et chacun d'entre eux va découvrir l'autre à l'occasion de cette passation de pouvoir.
طبعا الرحلة فيها أمور كثيرة يعني بعضها له بعد ميتافيزيقي وبعضها له بعد سياسي.
Bien sûr, il traverse beaucoup d'aventures, certaines métaphysiques, d'autres politiques, mais peut-être ne pouvons-nous entrer dans ces détails.
Non, on peut pas malheureusement entrer dans ces détails, et c'est dommage. Mais finalement, c'est comme dans les Mille et Une Nuits, c'est quand même une histoire qui ne peut pas finir, même s'il y a une transmission. C'est un récit qui ne peut jamais finir, cet appel du couchant.
أنا سعيد إنك ذكرتي ألف ليلة وليلة.
Je suis très heureux que vous citiez les mille et une nuits.
لأنه أنا بعتبر ألف ليلة وليلة هي ذروة القصة الإنساني.
Parce que je considère que c'est le sommet de la narration humaine.
وأنا بضع أمامي نماذج أو نماذج من الإنسان من تراث الإنسانية بنافسها أو نفسي أكتب.
Et moi, mon vœu, ce serait d'égaler ce talent narratif. Qu'on trouve aussi dans Moby Dick de Melville.
Ivo Andrich.
Ivo Andrich, un pont sur la Drina. La recherche du temps perdu de Proust.
Kramazov.
Les frères Karamazov. Je ne devrais même pas traduire, en fait, vous comprenez.
Oui, mais...
Elf et Léla ou Léla.
Et les mille et une nuits, bien
sûr.
Donc, quand bien même je n'arriverai qu'à 10% de toutes ces œuvres extraordinaires, j'aurais quand même réalisé une œuvre considérable.
Il
y a un autre élément important dans Les Mille et Une Nuits, c'est que c'est une œuvre anonyme, c'est une œuvre collective dont on ne peut pas attribuer la paternité à tel ou tel auteur.
Et
certains des contes, en fait, peuvent être rattachés à tel ou tel pan de la culture pharaonique, babylonienne, assyrienne, africaine également. Mais l'idée maîtresse de cette œuvre, c'est que la narration combat la mort.
Scheherazade
raconte pour sauver sa vie.
Et
moi, ce que je viens de découvrir dernièrement, c'est que je recouvre la vie d'une certaine manière quand j'écris.
في نفس الوقت انا دارس للفن العربي دارس للعماره العربيه دارس للموسيقى العربيه وكل ده من اجل تحقيق الخصوصيه في الكتابه.
En même temps, j'ai étudié l'art arabe, l'architecture, la musique. Et ça me donne une certaine spécificité dans ce parcours narratif. On peut relier la structure des mille et une nuits avec l'art de l'arabesque
arabe.
Et la planification des villes anciennes, aussi bien dans le monde arabe ancien. Donc moi, c'est mon ambition absolue, ça serait d'écrire une œuvre capable de rivaliser avec Les Mille et Une Nuits.
Mais vous avez commencé avec L'Appel du couchant. Mais ce travail sur le temps et sur la mémoire que vous menez beaucoup est très présent dans cette espèce de kaléidoscope qui vient de paraître en français, qui s'appelle Les poussières de l'effacement. Et on va essayer d'en parler parce que je vois que le temps tourne, mais malgré tout, je voudrais quand même parler d'un autre livre, peut-être qui est plus petit pour vous, peut-être pas moins important, mais que moi j'aime beaucoup, beaucoup, qui est ce livre qui a une raison autobiographique et qui s'appelle Au plus près de l'éternité. Donc, en deux mots, c'est un homme qui est vous, qui est dans une chambre d'hôpital. Il est loin de chez lui, il est dans un pays lointain, il va être opéré, il est opéré, il se remet. Mais au fond, il ne pense pas uniquement à sa maladie, à son opération, même s'il décrit un certain nombre de processus. Il évoque bien d'autres choses. Et le texte est tantôt à la première personne, tantôt à la troisième personne, notamment quand l'infirmière Catherine apparaît. On a l'impression que Catherine suscite un récit un peu plus dans la distance. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est tout, et ça rejoint des choses. D'ailleurs, il y a un personnage qu'on retrouve dans Les poussières de l'effacement, celui qui s'appelle Abou Agar, le magnifique homme qui prépare les fèves. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce livre, c'est le souvenir, c'est toute cette expérience des choses les plus quotidiennes. Tout à l'heure, quelqu'un de plus compétent que moi va lire des passages de vous, mais je voudrais quand même lire un très beau passage sur le pain, si je le retrouve. Normalement, je le retrouve. Donc, il y a plusieurs sortes de pain que vous aimez. D'abord, le pain Shamsi. Où trouve-t-il son origine? Nous sommes sur les plateaux formés par les limons du Nil. Le soleil est à son zénith, au faîte de son incandescence. La levure s'épanouit sous l'effet du feu cosmique et de la canicule immémoriale. Je sais à l'instant où j'écris ces lignes ce que j'ignorais à l'orée de mon parcours, à savoir cette relation unique que le pain entretient avec le cosmos. Il y a un autre pain aussi que vous aimez beaucoup, qui est le Balaadi. Et puis, vous dites, je crois que peut-être un jour vous allez écrire un livre, oui, un livre sur le pain, à condition que le temps qui reste me le permette, j'y consacrerai un ouvrage. C'est quand? C'est pour quand?
Inch'Allah. يعني مشغول بالزمن كما ذكرت، والانشغال بالزمن بيقود للانشغال بالموت.
Le fait d'être absorbé dans la réflexion sur le temps conduit à aussi une réflexion sur la mort.
أنا عرفت الموت في أشكال كثيرة جدا.
J'ai connu la mort sous des formes très variées.
أنا عايش بالصدفة.
Par exemple, moi-même, je suis vivant par hasard.
وموجود هنا بالصدفة.
Et je suis dans cette salle aussi par hasard.
لأن أنا كنت مراسل حربي في الجبهة 6 سنوات.
Puisque j'ai été correspondant de guerre sur le front pendant 6 ans.
ولو غيرت بس مكاني. يعني لو غيرت مكاني حصل وقائع كثيرة جدا. يعني أنا كنت يعني في مرة في قهوة في السويس قعدت على كرسي وعسكري مطافي على الكرسي الثاني، فهو لما جينا فهو عزم علي، أنت عارف على طريقة المصريين، تفضل. فقلت له لا والله تفضل أنت الأول، فهو تقدم وقعد على كرسي.
Il m'est arrivé, par exemple, une histoire qui est d'ailleurs racontée dans les poussières de l'effacement, qu'il était à Suez et il y avait ce pompier, en fait, qui était dans un café et il l'a accueilli, il l'a invité à s'asseoir et, en fait, la chaise où il allait s'asseoir, finalement, c'est l'autre qui s'y est assis et quelques instants plus tard, il y a une balle perdue qui a abattu le pompier, donc à la place où il allait s'asseoir quelques instants auparavant. Donc je suis un rescapé, en fait.
بعد دقائق جات شازية دخلت هنا من ورا وهو ما أنا باقي بالصدفة. يعني في عشرات المواقف كهذه.
Et des situations comme ça, j'en ai connu des dizaines.
لكن.
Mais.
في فرق.
Oh, j'ai appris un mot.
في فرق كبير جدا ما بين موت يأتي من الخارج وموت يأتي من الداخل.
Mais il y a une distinction très importante entre la mort qui vous parvient de l'extérieur et celle qu'on sent monter de l'intérieur de soi avec la maladie.
أنا في طفولتي أصبت بحمى روماتيزمية لا أذكر متى أصبت بها. زي كتير من الأطفال المصريين.
C'est aussi quelque chose qui est dans le livre, c'est cette fièvre qui m'a touché quand j'étais petit et dont je ne conserve aucun souvenir.
بتعرف الواحد العيل سخن اديله اسبرين وخلاص، انما ما الثابت اثر في القلب.
En fait, à l'époque, cette maladie est passée inaperçue, personne n'y a prêté vraiment attention, mais j'ai appris bien plus tard que en fait elle avait eu une influence sur le cœur.
96 عام 1996 وصلت حالتي الصحيه لدرجه خطيره جدا.
En 1996, je me suis trouvé du fait de la maladie du cœur dans une situation très très grave.
وتقرر إجراء عملية معقدة، يعني كانت صمامات وشرايين. وقتها كانت معقدة، دلوقتي بتتعمل.
Donc on a décidé de me faire subir une opération qui à l'époque n'était pas si courante. Aujourd'hui, ça c'est ça s'est généralisé, mais l'opération des valves et des artères.
Le docteur a dit que c'était une opération dangereuse, le taux de réussite était limité, et j'ai accepté de faire l'opération.
Le médecin m'a exposé les risques que je courais et j'ai accepté.
La nation a envoyé en Amérique. يعني الدولة لأن التكلفة كانت كبيرة.
Donc c'est compte tenu des coûts de cette opération, c'est l'État égyptien qui m'a envoyé là-bas en Amérique.
قبل ما سافر أنا كنت داخليا هيأت نفسي للموت.
Et avant de partir, je m'étais disposé mentalement à l'éventualité de la mort.
لدرجة إنه أنا كتبت جواب لزوجتي وهي موجودة معي هنا وعاشت كل المشاكل الصحية يعني وتحملت طبعا صعوبة الحياة مع كاتب بكل نزواته ومشاكله.
Donc j'ai rédigé à cette occasion une sorte de lettre testament à mon épouse qui est dans la salle ici et qui a vécu avec moi toutes ces épreuves et notamment la difficulté de vivre avec un écrivain, donc qu'elle en soit remerciée.
أنا كتبت جواب ليها كان سافرنا في مصر في ذلك الوقت صديق عزيز جدا السفيرة الوزيرة أحمد ماهر، فكتبت لها جواب وقلت لها يعني تبي تفتحي ده بعدين على أساس إزاي ترجع بالجثة.
Et j'avais même prévu dans cette lettre les modalités de retour avec le corps, mon corps. Pour moi, c'était un aller simple. Et c'est une idée que j'avais acceptée. Donc c'est la seule chose qui me préoccupait, c'était de prendre les dispositions pour mes enfants.
ايه اللي خلاني اتقبل هذه واصل الى هذا الحد لدرجه ان الطائره ساعه ما عملت تكف من الارض انا بصيت للارض على اساس ان مش هشوف مصر تاني.
Donc je me suis interrogé après qu'est-ce qui m'avait poussé à accepter à ce point cette idée. De sorte, par exemple, quand j'ai vu l'avion décoller, je me suis dit, c'est un sol que je ne reverrai plus. Je pense que c'est ma relation au soufisme qui m'a permis d'accepter cette idée ainsi.
ده كلام قد يبدو غريب للبعض لأن أنا من أبناء منطقة الحسين وكده وما كانش عندي تناقض بين أن أنا أكون اشتراكي. وفي نفس الوقت على علاقة قوية بالتصوف اللي فيه رؤية كونية واسعة جدا طبعا بتبان في التجليات وفي مقاربة الأبد وفي هاتف المغيب أيضا.
Bien sûr, cette notion peut surprendre chez quelqu'un qui a dit un peu plus tôt qu'il était un socialiste enragé. Mais pour moi, il n'y avait aucune contradiction entre le fait d'avoir des idées progressiste en matière sociale et d'un autre côté, à titre individuel, d'être engagé dans une quête soufie. Et c'est quelque chose qui ressort, je pense, dans les illuminations, dans Au plus près de l'éternité et dans l'appel du
couchant.
C'est à ce moment-là que ma réflexion sur le temps a pris un tournant parce que j'ai découvert que en fait l'homme lui-même est le temps et mémoire, que l'homme est mémoire et que l'existence elle-même est mémoire. D'où le projet des carnets en fait que j'ai commencé
un peu après.
Qui est une tentative de reconstruire la mémoire et donc de reconstruire la vie au moyen de l'écriture.
Mais précisément, dans Au plus près de l'éternité, il y a des pages magnifiques sur le fait d'être à nouveau vivant. Par exemple, quand j'ai pas le temps de le lire parce qu'on va pas avoir le temps de faire tout ce qu'on a à faire, mais quand vous parlez du bonheur de prendre à nouveau une douche, quand vous décrivez cette sensation de l'eau sur le corps, sur le fait d'être de nouveau vivant, je trouve ça absolument magnifique. Mais il faut aller lire ce livre parce que là, j'ai plus le temps de vous le lire. Mais vous y parlez aussi de la mort de votre père. Et alors vous dites, c'est la première fois que je parle ouvertement de cette mort-là, alors que c'est l'événement fondateur du livre des Illuminations. Pourquoi ?
En fait, je vais répondre à sa place.
Parce qu'au plus près de l'éternité, il l'a écrit avant.
Parce qu'en fait, j'en ai parlé avec lui.
Alors, allez-y.
Justement, ça m'avait intrigué. J'ai même
vous
mis
aussi,
une
ça
note,
vous a intrigué Oui, alors, allez-y.
Donc, en fait...
Il ne peut pas répondre.
Non, mais il ne voit pas bien à quoi on fait allusion. Donc, je vais lui dire. Mais c'est parce qu'en fait...
Il faut lui expliquer.
Oui.
Alors, allez-y, répondez.
En fait, quand il a dit cette phrase, effectivement, il avait déjà écrit le livre des Illuminations. Mais c'était la première fois qu'il en parlait. Donc, il en parlait vraiment par la parole. Donc, pour lui, l'écriture, c'est différent. Bon, il confirme, donc ça va, je suis rassuré.
D'accord, il confirme, c'est très bien.
Je ne veux pas me substituer à l'auteur.
Et طبعا العيش هنا جزء من الذاكره يعني لما انا بعد ما نجحت العمليه وفتحت عيني انا اذكر كانت الساعه 6 الا ربع
في
لا بعد الظهر
Le pain fait aussi partie de cette mémoire, bien sûr. Quand j'ai rouvert les yeux après l'opération, il était 18 heures environ. Et c'est, j'ai ressenti ça vraiment comme une renaissance, comme une nouvelle naissance.
Mais c'est un livre de renaissance, c'est un livre de renaissance.
وإن دي مية وإن الكهرباء دي ممكن تموت ويعني لكن أصبح عندي رؤية بتمسك فيها بكل ذرات الحياة المذاق مذاق الخبز ده حياة الذاكرة الإنسانية بتتعلق بما عرفته فأنا كنت مثلا نفسي أكل عسل أسود رغم تعرف دي أكلة الفقراء في مصر.
La seule différence avec un nouveau-né, c'est que je connaissais déjà des choses. Donc je savais qu'on peut se brûler, qu'il faut boire, des choses comme ça. Mais sinon, j'étais comme un nouveau-né et il y avait juste cette mémoire des choses passées, comme le goût du pain. Mon goût me portait vers des choses très simples, comme le miel, par exemple.
Et les fèves. Vous avez même cherché à manger des fèves, mais ce n'était pas celle de Abu Hagar.
Le moustache, c'est l'Amérique.
Exactement, je n'ai pas trouvé les fèves d'Abu Hagar.
Le moustache, c'est l'Amérique. Quand on étudiait les demandes des malades, les Marocains, فعملوا له مطعم فيه فول بس فول امريكاني.
Mais alors par chance, il y avait dans le restaurant attenant à l'hôpital, comme il y avait beaucoup de patients égyptiens, ils avaient compris le truc, donc ils avaient apporté des fèves, mais c'était des fèves américaines, donc c'était juste un pis-aller.
L'insan لما بيحاول يغرق بيتعلق بكل ما في الذاكره.
Quand l'homme est en train de couler, il se raccroche à tout ce qu'il a conservé dans sa mémoire.
عشان كده انا بتشغلني جدا اللحظه اللي هاغلق عيني فيها الى الابد، ايه اللي هشوفه في هذه
C'est ça qui me pousse à m'interroger quand je vais fermer les yeux définitivement, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce qu'il y aura après.
ده سؤال من الاسئله اللي موجوده.
C'est une des questions qui est dans les poussières de l'effacement.
Oui, alors là, autant vous dire, mais la situation devient absolument tragique, étant donné l'heure. Parce que le livre des illuminations, il faudrait sans doute une journée entière pour en parler. Alors on va essayer de ne pas le faire. Donc l'élément fondateur, c'est en effet la mort du père. Et c'est à nouveau un voyage dans le temps, d'illumination en illumination. C'est sans doute un désir, au fond, de ressusciter le père. Mais sans en rester aux anecdotes personnelles. Alors, c'est une expérience, ça débouche sur l'expérience poétique et mystique. Pour faire très vite, le narrateur comparait devant le divan qui est, dit Ritani, le poste de contrôle avancé à partir duquel est supervisé notre monde terrestre. Et il obtient l'autorisation de voyager d'illumination en illumination. Donc c'est à la fois un livre de sagesse, un récit initiatique, un pamphlet parfois, un livre de voyage, un livre d'amour autant de trop peu d'amour. Donc autant vous dire qu'on ne peut pas parler en 5 minutes de ce très grand livre qui a été écrit pendant 6 ans, de 1980 à 1986. Donc on va peut-être quand même, c'est toujours bien d'écouter la parole des écrivains plutôt que de parler autour d'eux. Donc on va peut-être lire, je crois que Nicolas Taïeb doit être quelque part et qu'il va lire un passage du livre des Illuminations.
L'illumination a été furtive, pareil à un pont entre deux rives. Un instant de répit entre deux souffrances. Je voguais vers la crête des cieux sans crainte de chuter dans le gouffre des abîmes. Parvenu au zénith, j'ai scruté le décor qui s'étalait en contrebas. J'ai pu ainsi embrasser du regard notre monde terrestre. Sa rotondité, sa beauté, sa splendeur. J'ai vu qu'à l'intérieur de sa forme sphérique, il recelait toutes les variétés des dimensions, longueur, largeur, linéarité, et des formes, circulaires, carrées, triangulaires. J'ai vu tous les continents en bloc comme en détail. J'ai vu les mers et ce qu'elles abritaient dans leurs abysses. J'ai vu les montagnes et ce qu'elles portaient sur leurs versants, les météores et leurs trajectoires, les nuages et leurs glissements, les villes et leurs mutations, et puis les campagnes, les sentiers battus, les rues, tous les tournants des chemins. À ce point, un nouveau pouvoir m'a été conféré, celui de plier mon regard à ma volonté. À présent, je pouvais me concentrer à ma guise sur tel ou tel détail, sans pour autant perdre la vision de l'ensemble, englober du regard la planète entière, tout en distinguant aussi bien un panneau de signalisation planté à l'angle d'une rue isolée, l'architecture générale d'une ville, des fleurs multicolores débordant d'une vasque de métal blanc suspendue entre les deux étages d'un édifice, ou encore les minutieuses incrustations gravées dans le bois d'une porte ancienne. Je parvenais même à déchiffrer les titres des livres exposés à la devanture des librairies. Mon regard a encore flotté un temps, avant de se poser comme un pigeon épuisé sur les emplacements que j'avais connus enfant, puis adolescent, puis jeune homme, puis homme mûr. Et là, j'ai reçu un pouvoir qui n'avait été accordé à aucun de ceux qui m'avaient précédé dans les illuminations. Celui de percevoir un même lieu à plusieurs époques différentes, et cela dans un seul regard. La première vision que j'ai eue était celle de mon père. Le voilà s'activant de bon matin, à l'heure où suinte la rosée, ou bien marchant dans la cohue de midi. Je le vois arpentant un sentier abandonné entre deux villages, je le vois m'emmenant avec lui dans certains de ses déplacements, je le vois se rendant à son travail, descendant dans la petite salle de prière aménagée au rez-de-chaussée du ministère, ou bien gagnant le jardin proche où il s'allonge lorsqu'il est pris de fatigue. Le voilà parcourant la rue Kasrelchouk. C'est une fraîche matinée d'hiver, pourtant il ne porte qu'une galabie. Soudain, il se plante au milieu de la rue et tout son être exprime le désarroi auquel l'homme est voué depuis son origine. Les échoppes sont toutes closes à l'exception du dépôt à pain. Les mains nouées derrière le dos, mon père contemple longuement la marchandise. Un client a les bras chargés de galettes de pain encore brûlantes, juste sorties du four. Mon père attend qu'il soit parti pour s'avancer, saluant d'une voix sourde, une voix que, dans ce long périple, je ne lui ai connue qu'après son mariage, après qu'il m'eut enfanté, qu'il nous eut enfanté. Il commande 6 galettes, puis déclare à l'adresse du boulanger barbu, « Avec ça, ça fera 30 piastres tout rond. » Puis il ajoute, « Le début du mois n'est plus très loin. » Le boulanger réplique, « T'en fais pas, Ahmad, que Dieu nous apporte à tous son secours. » À ces mots, mon père se sent encouragé, il lui emprunte 5 piastres. Comme ça, ça complète la somme à 35. J'aiguise mon regard jusqu'à distinguer le duvet qui recouvre le dos de sa main et les articulations des doigts, ainsi que l'image illustrant le billet que lui a prêté le boulanger. Simultanément, je le vois tendre le plat vide à Sayed, le vendeur de fèves. Le voici rentrant à la maison, rapportant avec lui le petit déjeuner du jour. Je le vois pénétrer dans un café. Il s'arrête près de l'entrée, salue la cantonade, les clients attablés lui rendent son salut en cœur. Tout cela, je le perçois sans perdre de vue dans le même temps, le glissement des nuages dans le ciel, la formation des neiges, la révolution de la terre autour de son axe, la gerçure du froid et le marasme des tremblements de terre, le déchaînement des ouragans, grâce à cette faculté que j'ai reçue et qu'il serait trop long de détailler sans compter qu'on ne pourrait de toute façon en donner qu'une description imparfaite.
Mais alors justement dans cette grande entreprise, dans ce grand livre, est-ce que vous avez eu le sentiment de réaliser ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir de rassembler la tradition arabe, le patrimoine arabe et la modernité de la narration ?
Non.
Oui.
On voit qu'on est pressé par le temps. C'est... On n'est pas à la télévision, quand même.
Mais pas suffisamment.
Et le dalil, c'est que après les tagliats, j'ai devenu plus courageux sur la transgression des formes maloufes dans la écriture. Et ça a apparu dans
Et la preuve que je n'y suis pas parvenu suffisamment, c'est que j'ai l'impression d'être devenu plus audacieux dans certains de mes livres suivants, comme le Au plus près de l'éternité ou Les carnets.
هي القضية الحقيقة معايا من البداية الكتابة. أنا رأيي الكاتب الذي لا يضيف إلى التراث الإنساني كله يكون ناسخا وليس مبدعا.
Et pour moi, c'est quand même l'ambition, ça a toujours été mon projet, c'est qu'il faut ajouter au patrimoine qui existe jusque-là si on veut vraiment être un créateur, et sinon on n'est qu'un imitateur.
Et
l'écrivain doit vraiment trouver sa personnalité propre.
يعني أنا دائما كنت أقول عندما أرى زليج مغربي نقول هذا فن عربي أندلسي أو مغربي.
Quand on voit par exemple les Zeliges en Andalousie, on voit tout de suite que c'est de l'art arabe.
عندما نسمع موسيقى تركية أو هندية نقول هذه تركية وهندية.
De même, la musique turque ou indienne se reconnaissent immédiatement comme telle.
أريد القارئ إذا قرأ نصا أنا كتبته أن يقول هذه رواية غيطانية عربية.
Et mon vœu, si un lecteur lit un de mes romans, c'est qu'il dise « Ah, ça, c'est un roman guitanien arabe. »
من أجل ذلك حاولت تحقيق الخصوصية من خلال استيعاب العمارة المصرية بكل تجلياتها فرعونية وقبطية وإسلامية، الموسيقى العربية، العمارة، لأن الرواية تركيب.
C'est pour ça que j'ai puisé mon inspiration à la fois dans l'architecture, qu'elle soit pharaonique, arabe ou moderne, dans la musique, donc dans la construction, ça c'est pour la construction des livres, mais aussi dans la musique, pour le rythme. Puisque le tout roman est avant tout rythme.
Dans les تجليات مثلا الديوان الذي ذهب إليه الراوي ليأخذ ليسأله الحيرة ويحصل على الحل هو المحكمة المصرية الأوزيرية القديمة.
Par exemple, le divan qu'on voit dans le livre des Illuminations, auquel le narrateur s'adresse pour solliciter l'autorisation de voyager, c'est une réédition du tribunal d'Osiris qui avait dans la culture égyptienne ancienne.
تحولت عند المصريين بعد اعتناق الإسلام إلى فكرة الديوان الذي ترأسه امرأة.
Et il a été déformé ensuite transformé par la culture populaire égyptienne en un tribunal présidé par une femme.
أنا رأيي
سيدة زينب.
إنه إيزيس سيدة مريم العذراء سيدة زينب هم تجليات لشخصية واحدة.
Pour moi, Isis, la Vierge Marie et Sayyida Zainab sont des figures de la même personne, en fait, des transformations de la même figure.
يعني هنا أنا بحاول أستوعب مضمون ثقافي عميق لبلد قديم وبحقق من خلاله الخصوصية اللي أنا بحاول أحققها في الكتابة.
En exploitant ce patrimoine qui s'étend sur une très longue période, que je peux accomplir cette voie propre que je cherche.
الكتابة بدأت في مصر كفعل ضد العدم.
Donc, dans l'Égypte ancienne, l'écriture a toujours été conçue comme une action contre le néant, en fait, une manière de lutter contre le vide.
أكتب اسمي وبقدر ما أنجح في إبقائه مكتوباً. إذن أنا موجود.
Écrire son nom et le maintenir présent, c'est une manière d'acquérir l'éternité.
ودي أساس فكرة الدفتر السابع في دفتر التدوين الرن اللي هو الرن يعني الاسم في اللغة الهيروغليفية.
Et c'est ce qu'on verra dans mon carnet le suivant qui vient après celui-là parle du nom égyptien le ren c'est le nom en langue pharaonique. Et j'ai consacré un carnet à cet aspect-là.
Mais alors, les poussières de l'effacement, dont on va parler trop vite, mais on va en lire quelques textes, donc ça, c'est très bien. C'est précisément totalement ritanien arabe. Donc là, vous pouvez être tranquille. puisque tout y est, le travail sur la mémoire, vous dites pourquoi la mémoire convoque-t-elle un instant plutôt qu'un autre, et vous rêvez de convoquer la mémoire à volonté. Ça, c'est... Et puis, alors, il y a Abou Agar, on en a beaucoup parlé, j'aurais bien voulu qu'on lise cette magnifique chose sur les fèves. Il y a encore le Ritani architecte, puisqu'il y a, il y a tout un passage sur les maisons et les façades. Qui est... Et alors, il y a des passages que j'aurais aimé qu'on lise aussi sur les figures féminines, ces figures dont vous avez, que vous avez vues dans votre enfance, des femmes plantureuses ou au contraire, sauf Oum Saad, qui est... qui est un très beau portrait d'une femme, au contraire, svelte, mince, pas comme les autres femmes. Et puis, il y a Samia, la femme à la peau claire. Donc, malheureusement, même si on n'est pas à la télévision, le temps existe quand même. Donc, Nicolas Taïeb ne va pas lire sur les femmes, mais il va lire sur le Karoub et il va lire sur autre chose, sur les livres. Donc, on va terminer par les lectures de Nicolas. Et malheureusement... ce sera pour la prochaine fois. Avec l'autre carnet, on parlera des poussières d'effacement. Mieux.
On commence par Karoub. L'homme au corps malingre, qui se tient derrière un comptoir surélevé, à l'intérieur de l'étroit péchope, est coiffé d'une calotte blanche et porte des lunettes de vue à verre épais. Bien qu'il soit assez grand, il donne constamment l'impression de vous regarder par en dessous, ne desserrant que rarement les lèvres. De son côté, les seules phrases qu'il entend à longueur de journée sont au nombre de trois. Un jus de Karoub, un jus de tamarin, un rochaf. Chaque boisson a son récipient particulier qu'on appelle sattle. C'est une sorte de cruche en cuivre verni ou blanchie avec soin. Cintrée à mi-hauteur, elle s'évase avant de se rétrécir de nouveau près de l'ouverture munie d'un couvercle. Chaque récipient a sa place. Tel endroit est destiné à la Karoub, tel autre au tamarin. Quant au rochaf, c'est un mélange de fruits secs servi dans des coupelles métalliques. Chaque portion contient de la figue, des raisins secs, des dattes trempées, un abricot et quelquefois un pruneau. Le jus a l'odeur de l'eau de rose et le goût du miel raffiné. Mais ce dont je veux vous entretenir ici, c'est du jus de Karoub. Comme j'aimerais en percer le secret, son parfum, sa consistance et surtout l'arôme qu'il exhale et qui me transporte vers des décors spirituels, pousses de basilic, jardins riches de bienfaits. Chaque fois que je m'approche de l'échoppe, je l'ai fait à toutes les époques de ma vie, je m'ouvre à toutes les stimulations susceptibles d'enflammer mes sens ou de stimuler mon esprit. Je contemple le liquide ambré se déversant dans la petite chope. Et au moment de le déguster, je me garde de me précipiter, prenant tout mon temps, afin de retarder le plus possible le moment de la jouissance, attitude que j'ai adoptée à l'identique avec les femmes. Quand la passion commence à m'habiter, je voyage sans même me déplacer, je vole sans même avoir décollé. La saveur unique du jus de Karoub m'ouvre des voies multiples. J'aimerais que la chope reste éternellement pleine. Si malgré tout elle se vide... alors je la contemple d'un air accablé. Certes, j'aurai le moyen d'en commander une autre, mais j'ai déjà essayé cette méthode, elle ne m'a pas satisfait. J'ai compris que la contemplation est une des conditions du plaisir, et que si l'on veut combler ses sens, il ne faut pas boire tout son content. La dégustation du jus de Karoub m'a procuré plus de plaisir que je n'ai pu en glaner en parcourant les distances, en tournant les pages des livres ou en m'absorbant dans la rêverie. Il faut dire que celui-là était exceptionnel. J'ai essayé de le déguster en d'autres lieux, dans des cafés que j'ai fréquentés, et puis à Alexandrie, chez un commerçant dont on m'avait vanté les mérites, dans les pays du Levant aussi. Mais je n'ai jamais retrouvé ce que j'avais goûté des mains de cet homme. Toujours mutique, mettant toute sa concentration dans ce qu'il était en train de préparer et s'apprêtait à servir. En apprenant que l'échoppe avait rouvert ses portes après plusieurs années de fermeture, je m'y suis précipité, brûlant de nostalgie. Mais désormais, c'était un autre qui officiait. J'ai appris que c'était le fils du patron d'origine. J'ai commencé à siroter, mais je n'ai même pas pu terminer ma chope, tant je craignais que son contenu ne me fît oublier la saveur d'antan. Attendez, attendez! Lancement. Blotti dans l'espace étroit qui sépare le lit de l'armoire, dans notre petite chambre donnant sur le darbe, je suis assis, tête baissée. La scène se passe par une certaine journée de l'an 1959, mais j'ignore le jour de la semaine, le quantième, le mois, la place qu'occupe ce jour dans le cours de cette année. Soudain, je suis saisi d'un tressaillement inexplicable, une pulsion, une aspiration, un influx. Mais c'est une sensation inclassable, indéfinissable. Il faut que j'écrive. Je dois absolument coucher sur le papier cette histoire que je viens d'entendre de la bouche de mon père, la relater par le truchement de l'écriture. Au fournil, un homme désargenté s'est fait passer pour un ivrogne afin de dérober une galette de pain. Mais les gens se sont rendus compte qu'il simulait et ont crié « au voleur », mettant fin à cette mascarade. Entre le moment où cette pulsion s'est déclarée et celui où je l'ai mise à exécution, il ne s'est écoulé qu'un court laps de temps, et une fois lancé, je ne me suis plus jamais arrêté. Attendez. Ces livres-là. Quand je vois la masse de mes livres, je n'ai pas de doute, pas le moindre doute, sur le fait que je ne les lirai jamais tous. Pis que je ne pourrai plus guère revenir sur ceux que j'ai aimés pour les relire. J'ai conscience de la brièveté du temps qui reste au regard de l'immensité de la tâche. Mais alors, pourquoi est-ce que je les garde ainsi à ma portée ? Pourquoi est-ce que je les laisse envahir tout mon espace ? Pourquoi la disparition subite d'un volume que je conservais depuis des années me cause-t-elle un sentiment d'inquiétude, voire d'angoisse ? Tout ce que je sais, c'est que ces livres sont un prolongement de moi. Je ne pars pas le matin sans leur avoir jeté un coup d'œil. Et dès que j'ai un moment de libre, je m'arrête devant les étagères surchargées, n'hésitant pas à tendre la main pour toucher ceux que je porte particulièrement dans mon cœur. Je les débarrasse de la poussière accumulée. J'en tourne les pages en retrouvant l'état d'esprit qui était le mien la première fois que je les ai feuilletés. Parfois, j'en rapporte un de ma bibliothèque pour le placer près de mon oreiller. Ainsi, il peut passer la nuit à mes côtés avant que le lendemain, je le remette à sa place sur l'étagère. Bien sûr, l'important n'est pas tant le papier ni les caractères imprimés que les mondes dans lesquels il me transporte, l'occasion qu'il m'offre de découvrir des personnages, de me pénétrer de certains lieux minutieusement décrits. Je suis intimement convaincu que ces livres-là ne sont rien d'autre que mon existence elle-même, le prisme à travers lequel je vois. L'essence de ce que je suis. Je m'inquiète de savoir ce qu'ils deviendront après moi. Un jour, comme j'annonçais mon intention d'en faire don à une bibliothèque publique, mon fils, qui m'avait entendu, s'est mis en colère. Il a proclamé que ses livres lui revenaient de droit, qu'il allait s'en occuper lui-même. J'ai répliqué que je ne voulais pas laisser un tel fardeau à mes enfants, d'autant qu'il s'agit pour l'essentiel de livres consacrés au patrimoine ancien, loin de ses champs d'intérêt et de ceux de sa sœur. Il m'a renvoyé un regard sévère. Savoir que ces livres ont recueilli ton souffle me suffit.